Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Gras à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Tristan Gratalon. Dans le catalogue étoffé des grands principes républicains mis en avant après les attentats de janvier à Paris, nous nous sommes déjà intéressés dans cette émission à la laïcité, à la citoyenneté, à la place de l'école et à celle de l'autorité. Nous n'avions pas encore abordé cet autre objet incontournable du discours politique, la mixité sociale. L'actualité s'y prête, un délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, Thierry Repentin, vient d'être nommé auprès du Premier ministre. La veille, il y a tout juste une semaine, la ministre du Logement, Sylvia Pinel, présentait une vingtaine de mesures en faveur de la mixité sociale dans les quartiers. L'idée est d'organiser une meilleure répartition des logements sociaux dans les territoires. Ces mesures seront inscrites dans la future loi Égalité et Citoyenneté que le gouvernement entend soumettre au Parlement à l'automne. Alors, promouvoir la mixité sociale, voilà une ambition qui prête peu le flanc à la controverse. On imagine mal un discours défendant le contraire. Pour autant, la diversité sociale, dans l'habitat notamment, est-elle forcément le gage d'une vie meilleure pour la société, d'une diminution des inégalités? Quant au consensus autour de cette question, ne masque-t-il pas un discours qui relèverait davantage de l'exclusion? Enfin, et peut-être surtout, que pensent les populations concernées par cette politique? Bref, qui veut vraiment de la mixité sociale? C'est notre sujet du jour. Et ils seront trois pour en discuter ce soir. Christine Lelévrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris. Vos recherches portent sur la politique de la ville et la rénovation urbaine. Vous avez signé dans l'ouvrage collectif « En finir avec les banlieues, le désenchantement de la politique de la ville » un chapitre intitulé « Les effets paradoxaux de la rénovation urbaine », programme qui avait été lancé en 2003, donc il y a plus d'une dizaine d'années. On aura l'occasion justement de revenir sur ces effets. C'est un ouvrage qui a été publié aux éditions de l'Aube et dirigé par Thomas Kirschbaum. Pour discuter avec vous, Stéphane Baudet, bonsoir.
Bonsoir.
Maire UMP de Courcouronnes, dans l'Essonne, commune qui se situe dans le sud-est de Paris. Je ne sais pas si on peut encore la qualifier de ville nouvelle. Ça l'a été, en tout cas.
Elle est juridiquement plus une ville nouvelle depuis le 1er janvier 2000.
Ah, donc vous êtes le maire de cette commune. Votre troisième mandat,
c'est ça.
Ville qui compte combien d'habitants?
20 000 habitants.
Et vous êtes le président par ailleurs de l'Association des maires d'Île-de-France. Notre troisième invité, Anaïs Collet, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la gentrification. C'est un terme dont on commence à connaître la définition, mais enfin, sans doute faudra-t-il quand même y revenir. Vous venez de signer aux éditions La Découverte, Restez bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction. C'est basé notamment sur une enquête dans la ville de Montreuil, qui se trouve en banlieue parisienne, ainsi que dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Alors, le titre de notre émission ce soir peut peut-être paraître un petit peu étrange. Qui veut vraiment de la mixité sociale? A priori, tout le monde en veut. C'est un objectif assez consensuel. Alors, je vais peut-être vous poser la question différemment pour commencer l'émission. Christine Lévrier, est-ce qu'on peut être contre la mixité sociale aujourd'hui?
Bah, si on la prend dans le sens d'une valeur qui est effectivement assez partagé, il faudrait être pour la ségrégation ou pour l'apartheid, pour reprendre les mots qui ont été récemment prononcés. En même temps, cette valeur, elle n'est pas nouvelle. Hein, si on regarde les premiers écrits des urbanistes des années 20, considéraient déjà qu'on ne pouvait pas faire de la ville sans qu'il y ait une certaine diversité sociale et pas seulement une diversité des fonctions. On a une politique qui est menée depuis maintenant une trentaine d'années autour de cette valeur.
Donc est-ce que vous diriez que c'est une valeur qui est de plus en plus présente dans le discours et en particulier dans le discours politique?
Elle est de plus en plus présente parce qu'elle fait écho aussi aux valeurs républicaines. On l'utilise en permanence autour des valeurs républicaines. Elle serait porteuse d'égalité, elle serait porteuse d'un certain nombre de vertus. La question principale, c'est ensuite quand on l'a déplace dans le champ des politiques publiques, quand on en fait quelque chose de plus opérationnel, là, ça pose un certain nombre de questions. Donc, oui, sur la valeur, mais ensuite, sur la mise en œuvre, là, il y a beaucoup de choses.
C'est avant tout une valeur, la mixité sociale, Stéphane Baudet?
Oui, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je ne sais pas si il a déjà existé une civilisation où la mixité sociale existait réellement. Alors je sais que dans une émission, j'avais déjà dit cela, et on m'avait dit, mais si, dans le temps, dans les bâtiments bourgeois, il y avait les chambres de bonne au dernier étage. Très bien. Ça me paraît pas suffisant pour déterminer de la mixité sociale. Je crois qu'on a toujours
les étages nobles, à l'époque, c'était plutôt les étages du bas.
Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a toujours eu des quartiers pauvres et des quartiers riches, et nous sommes un certain nombre à essayer de lutter contre, mais en se rendant compte que finalement, d'une part, les moyens réels pour lutter contre sont difficiles. Les politiques publiques, au gré des décennies, font que finalement, quand on arrive à remplacer un ghetto, on finit par en créer un autre ou par le déplacer. Quand on regarde le développement de la région francilienne et puis la transhumance des populations du centre de Paris vers la grande banlieue, on observe quand même ce phénomène à grande échelle. Donc j'ai pas le sentiment qu'on ait réussi aujourd'hui à le régler. Donc oui, je pense que c'est une valeur, je pense qu'on doit la poursuivre. On verra peut-être au cours du débat. Je m'interroge parfois d'ailleurs si réellement ça reste un vrai objectif politique.
Donc vous nous dites finalement, Stéphane Baudet, oui, c'est une valeur, mais la mixité sociale en tant que telle, est-ce que ça a véritablement déjà existé? Alors valeur dans le discours politique, Anaïs Collet, valeur aussi revendiquée comme telle par les personnes auprès desquelles vous avez enquêté. Alors on a l'habitude dans les médias, hein, vous avez déjà invité d'ailleurs à ce sujet, de parler des bobos, vous parlez de gens tréfieurs, c'est-à-dire de gens qui ont un niveau social plus élevé que ceux qui habitent dans le quartier ou dans la ville où ils vont s'installer, et qui peut-être parce qu'ils ont une forme de complexe, ou en tout cas ont besoin de se justifier, expliquent qu'ils vont aussi habiter dans ces coins-là pour faire de la mixité sociale.
Alors je j'irai pas jusque là. La plupart du temps, ils disent qu'ils vont habiter dans ces quartiers parce que c'était trop cher dans les quartiers qu'ils convoitaient. Ensuite, dans un second temps, ils disent que devant le choix qui s'offrait à eux sous cette contrainte financière, les quartiers qu'ils choisissent, qui sont des quartiers populaires plutôt anciens et situés proches du centre de l'agglomération, leur déplaisent moins que d'autres. C'est plutôt dans ces termes-là.
Après, vous écrivez aussi, ce qu'ils contemplent à travers la vie de quartier, donc ceux dans lesquels ils s'installent, c'est en réalité leur propre idée rassérénante d'un petit monde social divers, donc c'est de la mixité, mais pacifique, d'où les antagonismes sociaux seraient absents. C'est-à-dire, c'est aussi, quand on parle de mixité sociale, c'est une forme d'idéal, d'harmonie absolue entre différentes classes sociales, quoi.
Oui, alors je reprenais avec ces termes-là les résultats d'une enquête déjà très ancienne de Catherine Bidou qui date du début des années 80. Cette idée reste encore valable aujourd'hui. Effectivement, les gentrifieurs ou les bobos aiment effectivement contempler leur quartier et l'assimiler à l'idée, à la notion de village, qui leur renvoie cette image d'un petit monde social qui fonctionnerait de manière relativement pacifique, avec des conflits sociaux pas trop tranchés. Voilà. Ceci dit, les gentrifieurs des années 2000 sont peut-être un peu moins naïfs que ceux des années 80. En tout cas, ils ont lu de la sociologie ou ils en ont entendu un peu par-ci, par-là. Et ils ne croient plus tellement non plus à cette image du village pacifique. En revanche, c'est vrai qu'ils apprécient quand même, ou en tout cas, ils ne détestent pas être dans un environnement mélangé socialement et côtoyer des gens qui leur ressemblent, mais aussi des gens qui ne leur ressemblent pas.
Stéphane Baudet.
Oui, j'observe, pour des raisons familiales, le quartier autour de Pigalle, notamment à Paris, et ce phénomène de boboïsation, tel qu'on l'appelle, que je connaissais très peu, je le vois, et ça correspond à peu près à ce que vous dites, avec cette nuance près quand même, c'est que pour visiter quelques villes à travers le monde, notamment d'anciens quartiers réputés très dangereux, on pourrait citer le Bronx à New York, etc., qui ont été victimes à un moment ou à un autre d'une forme de boboïsation, et je reboucle sur l'exemple de Pigalle, cette boboïsation génère quand même une mutation profonde du quartier, des commerces, donc des prix de location, donc des prix de revente de l'immobilier, et enfin très très vite, pour les populations pauvres qui y étaient au départ, elles deviennent parfaitement inaccessibles. Donc mine de rien, même là, il y a déjà une forme de jeunesse, de phénomène d'exclusion qui va peu à peu se faire, et qui va rejeter à moyen terme une population qui était là préalablement. Donc même là, c'est-à-dire que même quand vous mettez de la mixité sociale, vous mettez du pouvoir d'achat complémentaire dans un quartier, l'équilibre est très difficile à garder.
Donc il y a un effet à court terme qui n'est peut-être pas le même que l'effet à long terme, Christine Le Lévrier.
Oui, enfin, je pense que Anaïs Collet reviendra peut-être, mais on sait très bien que bon, l'envie de mélange, elle s'arrête aux portes de l'école, en gros. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'enjeux beaucoup plus importants pour les populations, de mélange qui présenteraient à leurs yeux des risques sur la scolarité de leurs enfants ou sur le milieu dans lequel ils vont être baignés, là il n'y a plus tellement cet engouement. Un peu moins quand même pour la mixité sociale.
Ça suppose peut-être d'ailleurs qu'on définisse ce que c'est la mixité sociale. Est-ce que la mixité sociale, ça veut dire cohabiter, mais dans un même endroit géographique, mais sans forcément vivre ensemble? C'est-à-dire jusqu'où c'est censé aller la mixité sociale?
La mixité, c'est un terme qui est très français. Première chose, c'est-à-dire qu'on le trouve assez peu dans d'autres langues. On a du mal à la traduire, cette notion, parce qu'elle est effectivement elle est très ancrée dans les valeurs républicaines, comme on disait tout à l'heure. Et en même temps, c'est une catégorie de l'action publique. Donc la définition, c'est dans le champ scientifique, on pourrait reprendre la définition de la ségrégation, hein, c'est-à-dire, mais la définition de la mixité, on voit bien que dès qu'on cherche à définir la mixité, on retombe sur les mêmes questions, c'est-à-dire quelle catégorie on prend, quels critères on regarde et à quel seuil on s'arrête pour considérer qu'on est dans un espace qui serait représentatif d'une espèce de mixité. Et puis, deuxième point, on sait très bien, et les débats sont quand même assez forts là-dessus, que dans une partie de ces politiques, notamment celles qui sont centrées sur les zones urbaines sensibles, les quartiers un peu défavorisés de la banlieue, on est en permanence, on oscille en permanence entre la mixité sociale et la mixité ethnique sans jamais vraiment le dire.
Année scolaire.
Oui, pour définir la mixité sociale, je pense effectivement qu'il faut, c'est comme le disait à l'instant Christine Lévrier, c'est quand même un terme qui est très ancré dans le champ des politiques publiques et qui mérite d'être défini, effectivement.
Est-ce que le fait qu'il y ait un consensus autour de cette notion-là, c'est la preuve que peut-être on l'a assez peu défini?
Ça, je sais pas, mais en tout cas, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, on peut parler moi, je distinguerais tout simplement dire une certaine diversité de peuplement, disons le contraire de la ségrégation au sens statistique, hein, la répartition relativement égale des groupes sociaux sur les territoires. On peut monter d'un cran et parler de cohabitation au quotidien ou de coexistence, de fait que des populations se côtoient, se croisent dans les espaces publics sans forcément interagir, mais déjà se voient ou habitent relativement près les uns des autres.
Vous dites dans votre livre que la proximité géographique n'abolit pas forcément les distances sociales.
Bien sûr que non, ça on le sait depuis longtemps, mais il peut y avoir quand même des effets de socialisation réciproque, même à distance, ne serait-ce que de côtoyer des gens qui sont très lointains socialement, eh bien on sait au moins qu'ils existent. Parce que, par exemple, j'ai participé récemment à une enquête dans le quartier d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, où les enfants de ce quartier me le décrivent comme un quartier mélangé, où on voit de tout, où il y a de toutes les populations, de toutes les couleurs. Et de fait, c'est le seul monde qu'ils connaissent, c'est celui qui est aux portes de chez eux. Mais voilà, et on pourrait monter encore dans le troisième cran en parlant vraiment de ce qu'on suppose toujours chez les bobos et que moi, je n'ai pas vraiment rencontré ou de façon minoritaire, un espèce de goût pour les autres, voire un engagement en faveur de l'abolition d'inégalité ou en tout cas de fabriquer du lien social activement. Ça, c'est quand même un comportement qui est peu fréquent et lié à des dispositions militantes.
Ce goût supposé pour les autres, des bobos, plutôt alors des gens très fiers, hein, parce que je vais quand même essayer de faire l'effort de conserver le terme que vous utilisez, Anaïs Collet. Ce goût supposé pour les autres, est-ce qu'il peut aller jusqu'à voir ces populations-là s'installer sur une commune comme celle de Courcouronnes, dont vous êtes le maire, Stéphane Baudet?
Mais très difficilement. Et d'ailleurs, la mixité sociale, je ne suis pas certain alors, qu'elle puisse avoir une seule et même définition. Si je mets du point de vue du maire que je suis, et donc potentiellement de l'aménageur que je peux être, ou du gestionnaire de quartier existant. La mixité sociale, si je me penche sur le berceau de mon quartier du Canal, dans lequel j'ai grandi pendant 20 ans, qui est un quartier qui n'a que 30 ans. Pas de bar, pas de tour, pas de dalle, qui est aujourd'hui le quatrième quartier le plus pauvre de l'Essonne, 30 ans après sa création. Si je me penche sur lui pour parler de mixité sociale, mon sujet va être comment j'essaye de faire revenir une population socialement d'un niveau un peu supérieur, pas seulement dans le logement lui-même, mais également peut-être dans les écoles, également peut-être pour renouveler un tout petit peu le système commerçant qui s'est mis en place et qui devient d'ailleurs lui-même un objet de ségrégation. Si je me prends ma casquette d'aménageur, je ne vais pas du tout poser la question dans le même sens. C'est en partant d'un quartier que j'imagine et qu'il va aller bien, comment, quelle dose je mets, par exemple à travers la question du logement social, pour se dire, je vais mettre un petit peu de mixité sociale, mais avec un prisme, qui est celui des aménageurs, qui est celui de... et qui est plutôt rassurant aujourd'hui, d'un minimum de difficultés sociales dans un quartier pour ne pas le déstructurer plus tard. Parce que si je fais le bilan, moi je suis un enfant de Ville Nouvelle, la Ville Nouvelle d'Evry, le quartier du Canal, je disais tout à l'heure, le quartier a 30 ans et il est déjà le quatrième quartier le plus pauvre de l'Essonne. Qu'est-ce qui mécaniquement a organisé cette forme de ségrégation dans un quartier qui était un quartier HLM au milieu des années 80, considéré à l'époque comme plutôt haut de gamme? C'est intéressant. Bah, il se trouve qu'il y a une mécanique assez simple. Ce quartier, là, je ne parle pas d'ethnie encore, même si ça peut devenir à terme évidemment un sujet. Mais dans ce quartier, les aménageurs de l'époque ont fait le choix de cumuler, ou en tout cas d'avoir au total, en cumulant le locatif social et social en accession, ou l'accession sociale, on est à 89,7% de logements de type social dans ce quartier. Et donc forcément... Quand la société va moins bien, c'est très sympathique d'imaginer ça dans les années 60, au moment des Trente Glorieuses. Mais quand la mécanique économique du pays se déstructure, bah, petit à petit, celles et ceux qui souffrent, qui sont là, ne vont pas pouvoir quitter le quartier. Et celles et ceux qui peuvent le quitter, le quittent. Et donc, comme forcément, on y met de plus en plus une population qui est en difficulté, c'est un peu comme la batterie d'un téléphone portable qu'on rechargerait sans l'avoir vidé. Il y a un moment où on finit par ne conserver que la population pauvre. Donc la question quand même de la typologie du logement que l'on crée dans un quartier, les disproportions, mais avec la même responsabilité pour tous les maires qui refusent de construire du logement social, que la responsabilité, et elle commence à être pointée à gauche comme à droite, et c'est plutôt une bonne nouvelle, de celles et ceux qui en ont trop fait et qui déséquilibrent concrètement. Je finis juste là-dessus, mais j'ai fait exprès de bien distinguer le logement social locatif de l'accession sociale, parce qu'on n'en parle pas suffisamment souvent, mais les drames sociaux que nous vivons dans les quartiers populaires sont bien plus souvent dans des copropriétés que dans du logement social.
Alors justement, c'est un des phénomènes que vous avez étudié, vous, Christine Lelévrier, en vous penchant sur le programme national de rénovation urbaine qui a été lancé en 2003. À l'époque, c'est Jean-Louis Borloo qui est ministre de la Ville et qui met en place ce système. Une des idées, hein, c'est déjà justement de casser les ghettos, alors à la fois en détruisant des logements, en dispersant les populations et en essayant aussi de diversifier l'habitat. Et vous écrivez ceci, un constat s'impose. Au bout de 10 ans, cette politique n'a pas réduit les écarts sociaux entre les quartiers dits sensibles et leur environnement. Est-ce que ça veut dire que vous avez constaté ce que nous décrit un peu Stéphane Baudet, c'est-à-dire une forme d'inertie? Ou bien est-ce que c'est un peu plus complexe que ça?
Non, ça va être plus complexe que ça. C'est-à-dire que on n'a pas non plus évoqué jusqu'à maintenant ce qu'on cherche à faire avec la mixité. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important, parce que on peut effectivement se dire, quand vous dites à quel moment, enfin, quand il y a des populations en difficulté, voilà, mais à quel moment c'est trop, à quel moment, enfin, comment on va définir quelque chose qui est de l'ordre quand même qui est très difficile à définir sociologiquement ou urbanistiquement, ou parce que des copropriétés, on a fait des copropriétés dans lesquelles normalement il ne devait pas y avoir de pauvres, il y a eu quand même des populations à très bas revenus. Donc on peut offrir une diversité de situations et d'habitats. Après, ce qui va se passer dedans n'est pas forcément ce qu'on imagine. Alors, dans le cas de la rénovation urbaine, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y avait quand même l'idée sous-jacente qu'on allait réduire les écarts entre ces quartiers et les autres. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas eu des effets assez intéressants du point de vue de la mixité, justement.
L'idée, c'était quand même ça, c'est de faire venir de nouvelles populations. Et donc d'en faire partir d'autres.
D'en faire partir, ou en tout cas, oui, d'essayer de faire en sorte qu'elles accèdent éventuellement au logement socio neuf qui était construit à côté. Mais tout ça, c'est théorique, en fait. Dans la réalité, les processus sont tels que, de toute façon, où est aujourd'hui l'offre de logements abordables pour des populations qui ont des revenus extrêmement bas? Ben, elle est encore aujourd'hui, elle le sera pendant un certain temps, sauf si on démolit tout, dans les zones urbaines sensibles. Donc il y a une espèce de mécanique qui fait que, de toute façon, même le logement neuf social qu'on construit aujourd'hui n'est pas abordable à des populations qui ont des revenus très très bas. Alors, ce qui s'est passé avec la rénovation urbaine, c'est qu'on a eu des populations locales, enfants de familles qui étaient là, enfants d'immigrés aussi qui étaient là, qui ont eu une certaine ascension sociale, tout au moins en diplôme, qui ont un emploi, et qui ont choisi, avec les contraintes qui sont les leurs, un petit peu comme on disait tout à l'heure, de finalement rester là, rester là ou venir ou revenir là ou venir là, tout en de pas loin.
Hein, ouais, vous dites 89% des ménages relogés sont restés dans leur commune, pour moitié dans leur quartier.
Ça veut dire c'est du côté du relogement, du logement social. Hein, c'est-à-dire que les logements qu'on a démolis, on constate, mais là maintenant. Les chiffres sont, enfin, ils peuvent varier selon les endroits, mais on sait qu'on n'a pas effectivement déplacé ailleurs massivement, comme on pouvait l'imaginer au départ, ou en tout cas le craindre pour certains, des populations ailleurs, puisque on va les déplacer où ? Donc on retombe sur des questions, enfin qu'on abordera sûrement avec Stéphane Baudet, de solidarité et de choses qui font que de toute façon aujourd'hui, donc ça c'est pour les gens qui ont été relogés du logement social. Hein. Moi ce que j'évoquais c'est les gens qui ont bénéficié de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des logements en accession à la propriété, en accession sociale à la propriété, qui ont eu une et qui ont réussi un petit peu comme on évoquait tout à l'heure à concilier leurs contraintes, leurs besoins quand même d'avoir une certaine ascension dans l'habitat, et puis finalement s'accommoder d'un certain nombre de choses qu'ils connaissent, qu'ils ne craignent pas forcément, à partir du moment où ils ne sont pas complètement dans les endroits où il y a de la délinquance et du trafic.
Et d'ailleurs, le fait, Christine Olivrier, qu'ils aient été en mesure d'accéder à la propriété, ça prouve peut-être qu'il y avait davantage de diversité sociale qu'on l'imaginait dans ces quartiers.
Il y a beaucoup plus de diversité sociale et culturelle qu'on ne veut bien le dire. Bon, ceci dit, les gens qui ont accédé sont des gens qui ont des revenus quand même très moyens.
Enfin, hein. Anaïs Collet.
Oui, pour la suite.
Non, c'est juste ça que je voulais dire, c'est que d'une certaine façon, ce résultat que vous avez mis en évidence avec vos recherches, c'est intéressant parce que ça met en évidence peut-être d'autres solutions ou d'autres manières d'envisager la mixité sociale ou la diversité, ou en tout cas de voir que peut-être l'important c'est d'offrir des possibilités de trajectoire, des opportunités de trajectoire à des gens et pas forcément de déplacer comme ça des grandes masses de population d'un endroit un autre, en faisant venir les uns, en faisant partir les autres.
Pourquoi est-ce que c'est problématique, Stéphane Baudet, quand on est maire, d'avoir certains quartiers qui sont très homogènes socialement, avec, alors quand c'est très homogène, j'imagine, avec des populations riches, c'est sans doute pas très problématique, en tout cas c'est pas vécu comme ça, mais pourquoi ça le devient politiquement quand ce sont pour des bas revenus ? Est-ce que finalement l'idée d'avoir davantage de mixité sociale, c'est l'idée de lutter justement contre ces inégalités ?
Écoutez, c'est pas seulement les bas revenus. Je veux dire, tous les quartiers populaires en France ont un taux de chômage en moyenne au double ou au triple de la moyenne de la population nationale. Donc il y a la question de la pauvreté, mais qui pourrait s'entendre sous le prisme, ce sont par exemple des ouvriers qui n'ont pas des salaires de cadre. Très bien. Non, le chômage y est bien plus fort qu'ailleurs.
Donc, mais si on fait de la mixité sociale, est-ce qu'il y aura moins de chômage ? À l'échelle nationale, ça va rien changer, si ?
Ah bah à l'échelle nationale, non. Enfin, si on pouvait se satisfaire d'avoir des quartiers comme c'est le cas chez moi, où il y a 7% de chômage et d'autres quartiers où il y en a 25%, moi ça ne me satisfait pas. Parce que, la mixité sociale, la relation entre les uns et les autres, les hommes et les femmes, les enfants qui vivent le quartier, ça se fait à l'école, sur des distinctions, ça se fait dans les équipements publics, ça se fait sur le marché. Je veux dire, aujourd'hui, on a des quartiers qui sont résolument des quartiers de pauvres, avec en plus... C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la mécanique du choix de logement qui est fait quand on construit ou quand on a construit. Parce que, en même temps, moi, je parle d'un héritage de quartier construit dans les années 70 ou 80. Je ne pense pas qu'on les fasse de la même façon aujourd'hui. Mais enfin, encore une fois, cette mécanique de pauvreté-là, elle est accentuée, vous le disiez très très bien tout à l'heure, elle est accentuée par le fait que c'est très sympathique de vouloir faire de la mixité, c'est très sympathique de vouloir modifier le logement dans le quartier même. Enfin, une fois qu'on a fait ça, on met ces populations où, or, par manque de solidarité nationale, ça c'est une évidence, on ne sait pas forcément où les mettre. Et donc, de facto, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous donner un exemple très concret. On a fait des analyses fines sur nos quartiers, sur l'agglomération d'Évry, dans le cadre notamment de la signature du nouveau contrat de ville il y a quelques semaines. Et sur le quartier du Canal, on voit que toutes les familles dont on a réussi, à travers des dispositifs politiques de la ville, à sortir ou à accompagner les familles des difficultés dans lesquelles elles étaient, quand elles s'en sortent, elles mettent à peu près 18 mois à quitter le quartier. Chaque famille qui quitte le quartier que l'on a accompagné, qui allait un peu mieux, on peut le dire ainsi, est remplacé par une famille qui va encore moins bien que la famille que l'on a traitée avant même qu'on commence à la traiter. Voilà. Donc je veux dire, il y a quand même une mécanique aujourd'hui qui fait que la solidarité territoriale, c'est plutôt nous, en matière, pardon de le dire un peu de façon provocante, mais d'éponge à misère qui la gérons, que dans le sens inverse. Voilà. Finalement, on est, je dis souvent, nous sommes un peu comme la salle d'attente d'un médecin qui ne désemplit jamais. C'est-à-dire que dès qu'on soigne quelqu'un, on a un nouveau malade qui arrive. Voilà. Et donc du coup, nous, on s'en sort jamais.
Donc une bonne politique de mixité sociale à année scolaire, est-ce que ça pourrait être plutôt que d'envisager des déplacements de population, de faire en sorte que les populations qui sont sur place bénéficient davantage de mobilité sociale? C'est peut-être d'ailleurs ça le terme qui est le plus intéressant, davantage que la mixité sociale, c'est peut-être la mobilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir évoluer socialement.
Oui, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'était dans l'exemple que vous donniez à l'instant, ça vient bien montrer quand même que ces quartiers sont loin d'être des ghettos au sens où ou des quartiers de relégation. Au sens où ce serait des quartiers où on est enfermé et où on aurait un ensemble de population qui n'en bouge pas. C'est-à-dire, vous venez bien d'évoquer l'idée de quartier sas, en fait, de quartier porte d'entrée.
Exactement. Voilà, nous sommes des machines à essayer d'intégrer.
Voilà, mais on peut le voir aussi. Enfin, on pourrait. Je sais que en tant qu'élu, c'est quelque chose de compliqué à gérer, notamment pour des questions de finances locales avant tout, certainement. Mais on peut essayer de voir ça aussi comme quelque chose de positif, de se dire qu'il y a des quartiers sas en fait et que ça marche. Enfin voilà, c'est peut-être un petit peu naïf ou benêt ou non, enchanté de dire ça, mais il y a au moins quelque chose de positif à savoir que des gens peuvent y arriver et en partir vers d'autres choses, d'autres endroits qui leur sont qui sont peut-être
évidemment
plus choisis.
Nous luttons pour un peu de mixité sociale, pour des questions économiques, pour des questions d'accompagnement de la famille. Mais ce que vous dites est très intéressant et on a dans ces quartiers-là, moi j'ai une cinquantaine d'ethnies parce que la question quand même des origines de la population joue beaucoup, parfois d'ailleurs dans le sentiment d'enclavement, parfois dans le sentiment de rassemblement et surtout souvent dans le sentiment de rejet des populations qui n'habitent pas le quartier. Mais c'est vrai que nous Français, en l'occurrence, nous jetons un regard sur les populations de ces quartiers qui est parfois très biaisé. Quand vous avez, comme dans mon quartier populaire, une cinquantaine d'ethnies différentes qui viennent du Mali notamment, puisqu'on a une très très grosse communauté malienne, on les regarde nous comme des gens pauvres et dans la difficulté. Or, ils sont moins pauvres et moins dans la difficulté quand ils habitent au canal à Courcouronnes qu'ils ne l'étaient chez eux. Et leur regard à eux, qui demande d'ailleurs à ne pas être forcément traités comme des pauvres, est pas celui que l'on porte sur eux. Et ça, c'est un élément important.
Alors, est-ce que c'est justement pas ça un des objectifs aussi du discours, je reviens au discours sur la mixité sociale, Christine Lévrier, qui est plutôt que de parler de mixité ethnique, qui est quelque chose qui est pas très apprécié en France, on va choisir ce terme de mixité sociale. Mais est-ce que c'est pas une façon de parler de cette question-là avant tout quand on parle de ça dans le discours politique?
On voit bien tous les raccourcis qui sont faits dès qu'on évoque ces quartiers sur un certain nombre de problèmes qui renvoient d'une façon ou d'une autre à des populations immigrées ou désignées comme telles. Donc moi je transformerais plus la chose en disant qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu sur la question de la discrimination que les habitants d'ailleurs des quartiers pointent beaucoup plus que la question de la mixité sociale, qu'ils soient d'ailleurs concernés ou pas par ces questions de discrimination, hein, en disant aujourd'hui l'enjeu c'est l'accès à l'emploi pour des gens qui sont discriminés par la couleur de leur peau. Enfin bon, sur cette question-là on est quand même très en retard en France, on est tout le temps en train de considérer que c'est pas voilà, enfin que c'est secondaire ou que en tout cas il y a d'autres questions plus importantes. Bon, je pense que là c'est une vraie question.
Et justement, est-ce que la politique de mixité sociale sert pas parfois à légitimer ces pratiques discriminatoires?
Mais elle sert de toute façon. Ce qu'on mène au nom de la mixité, on peut, étant donné le flou qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut faire un peu une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a des maires qui, enfin des maires et c'est pas les maires qui sont forcément les principaux acteurs, mais des maires et des bailleurs pour qui ça va être l'occasion de disperser réellement des communautés dans certaines copropriétés, mais pour d'autres, ça va être au contraire de faire de la promotion sociale résidentielle pour les gens. Donc en fait, c'est à la fois la force de cette notion, c'est bien pour ça qu'on la garde, et puis tout le monde a intérêt, je veux dire, du côté des acteurs aussi. Hein. Les bailleurs, ça leur permet quand même de revendiquer un logement social encore pour tous, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, hein, où on a déjà, et je ne dis pas que c'est forcément bien, mais on a déjà fait le pas de dire le logement social va être réservé aux plus pauvres. Donc c'est une façon aussi de revendiquer cette espèce d'universalité du logement social. Et puis pour les maires, ça va être la question de la redistribution que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je voulais revenir juste...
Oui. Revenez-y.
Je revenais juste sur la question de la mobilité que vous évoquiez, hein, qui maintenant est bien mise en évidence par un certain nombre de travaux, le fait qu'on est en permanence sur de la mobilité qui paupérise. Hein. Ça pose une autre question
qui est
comment on évalue de ce fait-là les politiques qu'on mène. C'est-à-dire que, un peu dans la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, il y aurait un effet éventuellement positif de ces politiques qui n'aurait aucun effet sur le territoire, mais qui aurait un effet sur les populations, pour une partie d'entre elles. C'est-à-dire que, quand vous disiez, au bout de 18 mois, elles partent. Donc, si on n'intègre pas cette question...
Si on ne se satisfait pas, finalement, de cette situation.
Ou alors, on considère qu'il y a à la fois mobilité et non-mobilité pour un certain nombre de gens, et qu'il faut jouer sur les deux, et qu'il faut pouvoir évaluer aussi l'effet des politiques sur les mobilités des populations.
Alors, comment on évalue, justement, Anaïs Collet, vous qui avez enquêté notamment dans la ville de Montreuil. Alors, à l'époque où vous enquêtez, la ville est encore dirigée par un maire communiste, donc on peut imaginer a priori que si il y a une politique de mixité sociale qui est mise en place, alors je ne sais pas si elle était volontaire ou subie, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de Parisiens qui sont venus habiter à Montreuil, mais c'était dans l'idée de lutter contre les inégalités sociales. Est-ce qu'on peut dire en tout cas que cette politique voulue ou subie, elle a eu des effets positifs, et si effets positifs il y a eu, ils sont de quel ordre?
Alors, c'est un gros sujet. Comme le disait à l'instant Christine Lévrier, on peut tout mettre derrière le terme mixité sociale. En l'occurrence, à Montreuil comme à Saint-Denis, par exemple, dans les années 80, la préoccupation numéro un était de lutter contre une pauvreté et un état très très dégradé du bâti dans la partie la plus ancienne de la ville, qui était aussi la partie la plus industrielle et la plus ouvrière. Donc là, avoir une politique de mixité sociale, ça voulait dire essayer de faire venir des classes moyennes. Hein, très clairement.
Donc il y a eu une politique volontariste vraiment sur ce.
Alors il y a eu une politique volontariste et en même temps avec la volonté de mettre des garde-fous, c'est-à-dire qu'il s'agissait quand même de s'inscrire dans le cadre par exemple des OPH ou c'est des opérations programmées d'amélioration de l'habitat où on encourage la réhabilitation des logements anciens mais en essayant autant que possible d'avoir des loyers modérés, des loyers conventionnés. C'est une ouverture aux classes moyennes à travers les logements sociaux, donc on reste sous certains plafonds de revenus. Mais néanmoins, par rapport à la population qui était présente à ce moment-là, c'est l'ouverture vers le haut quand même, une certaine ouverture vers le haut. En même temps, la mairie a souhaité essayer de lutter contre le danger de la spéculation immobilière et de l'arrivée, pour le coup, de gros promoteurs qui, eux, allaient jouer sur la proximité de Vincennes, du RER A, etc. Donc il y a eu aussi une politique anti-spéculation avec des menaces de préemption systématique, etc. Donc la mairie a essayé de jouer un équilibre pas évident et elle n'y est pas trop mal parvenue, à ceci près qu'il y a eu cette flambée immobilière des années 2000 qui a tout emporté sur son passage d'une certaine manière. C'est-à-dire que le début de gentrification qu'on constate à la fin des années 80 et dans les années 90, qui est très lié au départ des petites industries et au départ des ouvriers qui se sont retrouvés au chômage dans les années 70, il s'est amplifié à une vitesse fulgurante du fait de la pression immobilière du début des années 2000, enfin de toutes les années 2000, dans le cœur de l'agglomération parisienne.
Stéphane Baudet, est-ce qu'il y a des exemples d'autres villes qui peuvent vous inspirer ou vous dites, tiens voilà, peut-être qu'il faudrait qu'on essaie de mener cette politique-là
sur des villes de strate comme la mienne, c'est-à-dire 20 000 habitants, dont 15 000 en zone urbaine sensible, il y a très peu d'exemples. Orléans a tenté une expérience que nous tentons, mais là où on est confronté à des problèmes pour le coup strictement législatifs, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui nous ouvrons une ZAC, une zone d'aménagement concerté, pour construire 850 logements en plein cœur du quartier. Moi, je souhaite intégrer du logement social dans ces 850 logements, en contrepartie de quoi je souhaite du déclassement de logement social dans le quartier existant, de manière à la fois réintégrer de l'acquisition dans le quartier existant et en même temps de faire muter dans un parcours résidentiel une partie de la population qui habite dans le quartier actuel, mais le tout sur un ensemble de quartiers qui est uniforme. Hein,
Fait partie des prérogatives du préfet pour obtenir cette autorisation.
Non, c'est très compliqué parce que d'abord sur le territoire de l'ex-ville Nouvelle d'Évry, nous avons un vrai handicap, c'est que nous avons une trentaine de bailleurs sociaux qui sévissent et forcément ça fait tout autant de partenaires différents avec lesquels il faut négocier. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un quartier qui est relativement récent et donc les conventions signées avec ces bailleurs sociaux, lesquels amortissent ou rentabilisent, si je peux le dire ainsi, leurs investissements, sont des conventions qui durent encore 20 ans. Et aujourd'hui, d'un point de vue strictement législatif, on n'a pas encore le moyen de casser ces conventions. Donc on a aussi, même quand on veut faire de la mixité sociale, ce sur quoi nous travaillons donc, hein, à l'appui de l'ANRU d'ailleurs, qui finance actuellement une étude à Courcouronnes qui est unique en son genre sur tout le territoire national.
Ouais, l'ANRU, c'est l'agence nationale de la rénovation urbaine.
Exactement. Nous sommes encore confronté à des difficultés.
Christine Lévrier.
Non, je voulais juste dire que là on parle essentiellement des quartiers de la politique de la ville, alors que il me semble que la question elle est de la mixité, des problèmes qui se posent, elle est ailleurs. Elle n'est pas forcément rurale, mais elle est ailleurs que dans les espaces. Et on a des politiques qui sont en permanence ciblées sur essayent de déconcentrer la pauvreté là où elle est. Et donc, quand on parlait tout à l'heure des questions de mixité ethnique, c'est aussi le fait qu'on limite, et après je m'arrête, mais on limite, en fait, on est en permanence en train de limiter l'accès des populations les plus pauvres et des populations immigrées au parc en ZUS, sans y arriver d'ailleurs.
Mais vous voulez dire qu'il faudrait par exemple tenter de déconcentrer la richesse, c'est-à-dire ça pourrait être une autre façon de voir les choses.
En tout cas, oui, ça pourrait être de se dire quelle politique de mixité on pourrait avoir sur les communes les plus aisées, puisque c'est là que les processus sont les plus criants de ségrégation.
Donc. Alors il y a d'ailleurs un certain nombre de mesures qui ont été annoncées justement la semaine dernière. Je vous disais que c'est censé entrer dans le cadre de la loi qui sera présentée au Parlement cet automne. L'idée étant de mieux répartir les logements sociaux avec des préfets qui seront incités à accélérer la construction de logements sociaux dans les communes carencés au titre de la loi SRU, c'est-à-dire qui n'atteignent pas les fameux 20% de logements sociaux, enfin objectif qui est désormais de 25%. Alors, on a commencé l'émission en évoquant un petit peu cette sorte d'idéal que représente la mixité sociale, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Je vous propose, pour presque terminer l'émission, de retrouver qu'on peut peut-être appeler une forme d'utopie, une utopie malgré tout bien, bien concrète. C'est la maison radieuse de Rezé, près de Nantes, bâtie par Le Corbusier, fameux architecte. C'est en 1955, et écoutez comment en parlait le directeur de la société HLM qui gérait cette maison radieuse. La maison radieuse, c'est un petit peu l'équivalent de la cité radieuse à Marseille. Hein. Nous sommes en 1962.
Vous êtes directeur de la maison familiale, qui est une société coopérative d'HLM. Combien de logements comporte cet immeuble ?
Eh bien, très exactement 294.
Et il y a combien de personnes ?
Et nous avons dans l'immeuble un peu plus de 1200 personnes au mois de mars 62.
Ces personnes sont en presque totalité des salariés ?
Oui, en presque totalité des salariés. Si vous voulez des statistiques en pourcentage, nous avons environ 22% d'ouvriers manœuvres spécialisés ou professionnels. Nous avons 40%, si vous voulez, d'employés, de diverses catégories évidemment, et 36% de ce que la statistique ici appelle des intermédiaires. En fait, le terme recouvre, si vous voulez, des cadres subalternes moyens.
Vous pensez qu'ici, il y a une expérience sociale réussie, hein?
Je crois que c'est une expérience sociale réussie. Des enquêtes ont été faites ici par des sociologues de grand talent et de grand mérite. Je pense en particulier à M. Chambardelot, qui est venu ici faire des enquêtes très approfondies, en dehors de nous d'ailleurs, et donc en toute objectivité. Et je crois qu'il est possible de dire que sociologiquement et humainement, l'expérience ici est une expérience intéressante et réussie.
Alors, expérience sociale réussie, nous disait le directeur de la société HLM en 1962. Apparemment, c'est une expérience réussie et pérenne, puisque j'ai vu sur le site de la ville de Rezé qu'il y avait des témoignages d'habitants de cet immeuble qui disent « La mixité sociale, c'est en 2013, hein, la mixité sociale est telle que l'on passe de l'architecte au demandeur d'asile sans que cela ne gêne qui que ce soit. On ressent une réelle solidarité entre les habitants. » Comment se fait-il que cette expérience sociale réussie n'ait pas fait davantage de petits, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, Stéphane Baudet. Christine Le Lévrier.
Non, mais c'est un peu atypique. C'est un immeuble qui attire beaucoup par sa valeur patrimoniale. Enfin, bon, je veux bien aller voir si on est vraiment de l'architecte ou demandeur d'asile. Enfin, bon, je suis pas certaine qu'on soit vraiment. Et puis, bon, on a aussi des exemples de travaux sociologiques qui ont été faits à l'époque qui montrent qu'il y avait des conflits énormes entre des populations extrêmement différentes socialement. Donc, il n'y a pas de règle de ce point de vue-là. C'est bien là où on est un peu en difficulté. On ne peut pas contraindre. Enfin bon, je pense qu'il y a, la notion de choix et la notion de d'accessibilité me semblent les deux notions bien plus intéressantes que celles de la mixité. Mais
ouais, ce sont des notions d'ailleurs qui apparaissent très clairement dans le livre auquel vous avez participé, Christine Le Lévrier. En finir avec les banlieues, le désenchantement, la politique de la ville, ça a été publié aux éditions de l'Aube. Je renvoie également à votre ouvrage, Anaïs Collet, Restez bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction. Ça vient de sortir aux éditions La Découverte. Stéphane Baudet, vous n'avez pas de livre publié ici?
Non.
Bon, vous êtes maire UMP de Courcouronne dans l'Essonne.
Je fais ça avec plaisir, mais j'ai pas le temps.
Voilà, vous venez d'entamer votre troisième mandat. Vous avez encore quelques années devant vous dans ces fonctions. Merci beaucoup en tout cas
tous les
trois d'avoir participé à cette discussion. Demain, émission consacrée à la Turquie. L'ambiguïté peut-elle tenir lieu de politique étrangère?